10h05, je vous souhaite un excellent vendredi, surtout un très bon début de fin de semaine. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'Effet Normando termine sa 5e semaine d'émission. Je prends quelques instants pour vous remercier très sincèrement de votre participation active à cette émission. C'est extrêmement instructif de vous lire, de vous entendre, de parfois d'échanger avec vous sur des opinions qui nous qui sont divergentes de celles que je supporte et que je soutiens à cette émission. Alors, continuez comme vous le faites. C'est vraiment très, très apprécié. Et ces remerciements, je vous les transmets de la part également de l'équipe Isabelle Laure, recherchiste, Normand Gem, recherchiste. C'est à eux que vous parlez lorsque vous appelez à l'émission. De même que notre metteur en ondes, Jean-Christophe Ouellette. Au menu aujourd'hui, bien, plusieurs choses. Est-ce que vous croyez le ministre de la Santé lorsqu'il nous dit qu'il n'y aura pas de rupture de service à compter du 15 octobre? Je vous pose cette question dans la foulée de ce sujet, de cette décision, devrais-je dire, du gouvernement du Québec qui fait énormément jaser, qui crée aussi énormément de remous dans le réseau, dans la population. C'est cette décision qu'a prise le gouvernement de suspendre les employés du réseau non vaccinés. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura près de 20 000 employés dans le réseau qui, le 15 octobre prochain, vont être suspendus. C'est une décision extrêmement importante qui crée, je ne crois pas trop me tromper de le dire, mais qui crée déjà de l'anxiété auprès d'une certaine partie de la population. Là, j'entends d'ailleurs aux nouvelles des gens dire « j'espère pas tomber malade, hein, j'espère que ça ne m'arrivera pas, j'espère que je ne serai pas obligée d'aller aux urgences ». Alors, on vous interpelle sur ce sujet important, selon moi, parce que le gouvernement est sur la défensive déjà depuis plusieurs jours avec cet enjeu. Est-ce que vous croyez le ministre de la Santé lorsqu'il nous dit qu'il n'y aura pas de rupture de service à compter du 15 octobre? On ne sait pas trop comment il va faire ça, mais il nous dit, même sur 20 000 personnes qui quittent le réseau le 15 octobre, je vous assure qu'il n'y aura pas de rupture de service. En deuxième heure d'émission, et la question va vous sembler étrange, je vous dis très candidement et de façon très transparente, mais avez-vous l'impression d'avoir repris votre vie d'avant la pandémie? Avez-vous l'impression d'avoir repris un peu de votre vie d'avant la pandémie? Les enfants sont retournés à l'école, c'est possible d'aller au resto, au théâtre, d'aller voir un spectacle. Malgré les consignes sanitaires, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir retrouvé une certaine normalité dans votre vie? Et en terminant, et pour terminer cette émission ce vendredi, et la question, cette question va vous sembler non pas étrange, mais je sors de ma zone de confort avec un sujet comme celui-là. c'est Normand, notre chercheuse, qui me dit « je comprends pas, il semble avoir une folie sur les réseaux sociaux à propos du canage ». Alors moi, je veux comprendre pourquoi cette folie du canage. Le canage, hein, c'est l'art de mettre en pot certaines de nos recettes, les légumes de saison. Il semblerait que c'est la folie actuellement sur les réseaux sociaux pour le canage. Ça me fait penser à la folie du début de la pandémie avec le pain, là, la fameuse recette de Ricardo. Tout le monde s'est mis à faire du pain au Québec, qui a manqué de levure. Enfin bref, on va en discuter avec Bob le chef. Pourquoi cette folie du canage à ce moment-ci? Est-ce qu'on a réhabilité le canage dans notre société ou pas? Enfin bref, c'est la question qu'on va se poser à 11h35 à peu près. Pour nous joindre, bien, les coordonnées sont toujours les mêmes. 514-790-9850. Si vous habitez dans la grande région de Montréal, numéro sans frais pour ceux et celles qui sont de l'extérieur de la grande région de Montréal, 1-866-790-9850 ou le texto 98-985. Et il y a bien sûr mon adresse courriel, lenathalie@985fm.ca. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur tout le réseau Cogeco et salutations à nos auditeurs des stations affiliées. Alors, notre premier sujet concerne le ministre de la Santé. Alors, voilà quel est l'état de la situation. Je partage ça avec vous parce que, selon moi, sur le plan politique, le gouvernement a pris une décision qui aura des impacts et si le gouvernement ne réussit pas à contrer les impacts de sa décision de suspendre les employés du réseau non vaccinés, on pourrait se retrouver, excusez l'expression, dans un beau merdier. Je m'explique. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec toutes les convictions qu'on lui connaît, nous dit pour protéger les personnes les plus vulnérables dans le réseau, CHSLD, hôpitaux, Nous prenons la décision comme gouvernement et nous assumons cette décision. Nous prenons la décision comme gouvernement d'obliger les employés à se faire vacciner. Autrement, il y aura une conséquence. Et la conséquence, c'est vous serez suspendu si vous refusez de vous faire vacciner. Et là, le ministre, deux jours après, nous dit « Ah, savez-vous quoi? Je prends l'engagement devant vous qu'il n'y aura pas de rupture de service au cas, effectivement, on se retrouverait avec 10 000, 15 000, 20 000 employés qui quittent du jour au lendemain le réseau. On est déjà en pénurie de personnel. Rappelez-vous, c'était l'objet de discussion cette semaine, la pénurie d'infirmières. Le ministre est sur la défensive. Là. On est vraiment, au gouvernement actuellement, là, je vous le dis, on est en mode gestion de crise avec le réseau de la santé. Le ministre et le premier ministre disent « on est prêt à mettre tous les incitatifs en place, on est prêt à sortir le chéquier pour inciter 4 000, 4 500, 5 000 infirmières à revenir dans le réseau. » Entre vous et moi, honnêtement, je ne sais pas trop comment ils vont y arriver. Je ne crois pas, peut-être que vous êtes en désaccord avec moi, mais je ne crois pas que ce soit une prime de, je ne sais pas moi, 2 000 $ par mois, 1 000 $ par mois ou 100 $ par semaine qui va faire la différence dans le choix d'un infirmier ou d'une infirmière de revenir dans le réseau, un réseau qu'il ou elle a choisi de quitter compte tenu des conditions de travail. Alors, je ferme cette parenthèse-ci pour revenir à notre question qui nous intéresse. D'ailleurs, si vous avez une opinion sur le sujet, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Est-ce que vous croyez le ministre de la Santé lorsqu'il nous dit que il n'y aura pas de rupture de service? Moi, pour moi, dans ma tête, évidemment, lié au fait que 20 000 personnes risquent de se retrouver chez elles, alors est-ce que ça relève de la pensée magique? Est-ce que ça relève de la pensée magique? Alors, je vous interpelle là-dessus parce que, honnêtement, sur le plan politique, si vous voulez mon avis, là, le ministre de la Santé est confronté à l'Everest. C'est comme monter l'Everest. Je ne sais pas, c'est le paquebot, là. C'est le Titanic que le gouvernement, que le ministre de la Santé doit faire tourner. Puis vous savez ce que ça a donné, le Titanic, là? Ben voilà. On va aller joindre Christian Dufour, politologue que nous adorons, qui va nous guider dans cette conversation. Bonjour, Christian.
Bonjour, Nathalie. Vous guider dans cette conversation, c'est un gros défi.
Ah, non, mais Christian, honnêtement, vous êtes réputé pour être avoir un franc-parler. J'explique aux auditeurs. Moi, on termine la semaine d'une drôle de façon parce que le iceberg est à l'horizon, OK, où le mur, là, le mur de béton est devant nous. Et j'ai l'impression qu'on s'en va tout droit dans le mur malgré tout ce que le ministre de la Santé nous dit. Alors, Christian, votre opinion sur est-ce qu'on doit croire le ministre de la Santé qui nous dit qu'il n'y aura pas de rupture de service après le départ de peut-être 20 000 personnes du réseau, des gens qui ne sont pas vaccinés? Est-ce que vous y croyez?
Ben, j'aimerais bien le croire, parce que le ministre Dubé, son bilan est quand même assez solide. C'est pas parfait, là, si on compare aux autres ministres de la Santé avant. Mais il y en a déjà des bris de service.
Ah, voilà. Ben oui, absolument. Hein?
Et s'il était capable, d'ici un mois, là, de réorganiser le système pour que ça marche, je pense que François Legault devrait démissionner puis on devrait nommer Christian Dubé premier ministre du Québec. Parce que ça fait tellement de temps que ce système de santé-là, qui monopolise 50 % de nos ressources collectives, n'est pas fonctionnel. Puis là, on réalise que le système est exsangue. Il n'est pas capable de supporter quelques pressions supplémentaires que ce soit. Puis rappelons qu'on nous parle toujours de la pandémie, évidemment, qui est très grave. Bon, mais que là, il n'y a pas à ce point-là d'hospitalisation nouvelle puis de mort. Là. C'est pas comme la première, la deuxième vague, mais le système ne marche pas. Donc, pour répondre à votre question, il persiste et signe. Il dit, moi, il n'est pas question de revenir en arrière là, sur l'obligation pour les travailleurs de la santé de se faire vacciner, qui était largement appuyé par la population. Hein, il faut le rappeler. Là. Les gens trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Mais là, on réalise que perdre 10 000 joueurs qui sont en contact avec les patients, là, 10 000 travailleurs de la santé, c'est énorme. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas de solution. Ce que je constate, c'est que le défi de M. Dubé est très important. Il dit qu'il n'y a pas question de reculer. Vous, est-ce que vous y croyez?
Moi, je suis très sceptique, Christian. Et je vais vous lire un courriel d'un auditeur hier. Marc a écrit « Travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Je suis employé de l'hôpital Sainte-Justine et le 15 octobre, je ne pourrai plus travailler. Je suis pour la vaccination, mais pas pour l'obligation de la vaccination. » Alors, Marc fait partie, malheureusement, de ce qui risque de devenir un très grand groupe. Là. Alors, je me dis, politiquement, Christian, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, compte tenu de ce qu'on sait qui s'en vient, reculer, prendre un pas de recul en disant non, non, non. Est-ce que le ministre de la Santé peut faire ça, reculer dans les circonstances?
La question se pose. Moi, j'ai appelé beaucoup de monde là en préparation de votre émission pour voir ce que le ministre devait faire, qu'est-ce que le monde pensait, parce que je suis comme tout le monde. C'est très difficile pour le gouvernement de reculer parce que c'est sa crédibilité dans un dossier majeur qui va être mis en cause. Puis rappelons qu'au point de départ, la vaccination obligatoire, dans ce domaine de la santé-là, c'était pas mal. Pour bien des gens, c'était comme évident, hein? C'était comme une question de bon sens. Tu travailles dans le domaine de la santé, tu devrais te faire vacciner. Mais là, on n'en est pas rendu là. Il reste que là, il a été très ferme. Il n'y a pas question de reculer. Il ne faut pas qu'il y ait de bris de service. Mais là, la pression, ça va être sur les travailleurs qui sont là. Ben bon, mais c'est pas des robots, là. C'est pas des surhumains. Puis là-dessus, c'est que faire revenir les infirmières qui ont déjà quitté entre vous et moi, Nathalie, avec tout ce qu'on entend qu'on lit dans les journaux puis qu'on entend dans les médias, pensez-vous que c'est tentant pour les infirmières retraitées de revenir?
Ben non, justement, Marco, sur le texto, nous écrit, voyons donc, ils veulent pas de primes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête le temps supplémentaire obligatoire, trouver un semblant de vie normale. Moi, j'ai vraiment l'impression, Normand, que le gouvernement s'en va dans le mur. Il le sait, mais il persiste et signe pour éviter de perdre la face. Politiquement, parce que là, le ministre va tenter de quoi, de sortir un lapin de son chapeau, puis nous dire on a la solution, les primes, puis on va réorganiser le réseau. Réorganiser le réseau. On a-tu entendu ça souvent?
Moi, c'était pas du fait que j'ai une certaine admiration pour Christian Dubé dans ce dossier-là, parce que ça fait plusieurs mois qu'il tient le fort. Si j'avais pas cette admiration-là qui persiste un peu, là, je serais complètement découragé, je dirais que ça marchera pas, mais je sais pas s'il va sortir un lapin de son sein. Il y a même des gens, des méchantes langues qui prétendent que, vous savez, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la confrontation entre le premier ministre Legault, là, puis Gabriel Nadeau-Dubois, puis oui. La campagne fédérale. Si c'était pas quelque part une manœuvre de diversion.
Non,
gouvernement.
Non. Mais voyons.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, là, c'est tellement un gros problème dans le domaine de la santé, là, que le gouvernement est content qu'on parle des woke, puis de la chicane avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis que de la campagne électorale fédérale. Mais si on s'éloigne un peu des arbres, puis on regarde la forêt.
Oui.
Entre vous et moi, on est tous un peu responsables de ce système de santé-là dont on était fiers. 50% des ressources du Québec, puis quand on regarde les chiffres d'hospitalisation, ça marche pas. Comment ça se fait que ça nous remet en face de nous-mêmes? Puis moi, je vous cacherai pas que j'ai cru à un moment donné, moi, à Gaétan Barrette. Puis je l'ai même défendu à l'époque, parce que c'était vraiment un bulldozer, hein, puis c'est quelqu'un qui avait de la force, il avait l'air de connaître le système. Je veux dire, il va brasser la cage, peut-être qu'il va faire comme Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui avait imposé une réforme, mais il y avait de la décentralisation dans la réforme. La réforme elle-même, au départ, avait été centralisée, mais il y avait de la décentralisation. Mais le problème, c'est que Barrette, il a pas livré la marchandise, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis depuis Barrette, je ne sais pas que moi, je suis un peu découragé. Mais d'ici Barrette, il connaissait la machine, il était fort, il n'a pas été capable de changer ça. Bon, je veux pas être juste négatif, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on est tous un peu découragés face à ce système-là.
Mais oui, absolument, absolument. Il faut aller à la pause, Christian, il y a tellement de choses à dire. Je vous interpelle, chers auditeurs, sur est-ce que vous croyez au ministre de la Santé lorsqu'il vous dit qu'il n'y aura pas de rupture de service. Vous me répondez, il y a déjà des ruptures de service. Mais est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait reculer sur une question aussi importante que celle-là pour éviter de faire face à, à une autre crise? Parce que dans le fond, tu sais, c'est crise par-dessus crise. Alors, je vous interpelle, est-ce que vous croyez que le gouvernement serait... Est-ce qu'il serait plus sage pour le ministre de la Santé de reculer sur la question de la vaccination obligatoire, même si Christian vous a confirmé que dans l'entourage du ministre, c'était pas question de reculer? Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. 10h, presque 19, courte pause. On vous revient avec vos réactions. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vos réactions sont très nombreuses, je tiens à vous le dire. Le but, c'est pas de faire peur, mais c'est d'exposer les défis qui attendent le gouvernement face à cette décision d'obliger la vaccination pour les employés du réseau de la santé. Si les employés décident de ne pas se faire vacciner, la conséquence est de se retrouver chez eux suspendus sans solde. Alors, vos réactions, je suis dans le réseau sur le texto, et oui, je suis dans le réseau, et oui, il devrait reculer le gouvernement. Il va y avoir beaucoup de bris de service causés par les démissions. Les sans-sols, ils devraient plutôt obliger le dépistage. Une autre réaction, le ministre ne doit pas reculer. Je ne veux pas être soigné par une infirmière non vaccinée. J'ai des doutes sur sa compétence et sur le fait que les patients soient sa priorité. Une autre réaction, j'avoue que le gouvernement a bien fait de mettre une date limite, mais j'avoue que s'il joue un coup de poker et de bluff pour le 14 ou 15 octobre, il repousse d'un mois. Alors, est-ce que, avant d'aller à nos auditeurs, Christian Dufour, politologue, Christian, est-ce que tu as l'impression, vous avez l'impression, Christian, que le gouvernement joue bluff? Ben, peut-être pas bluff, mais c'est un pari risqué, en fait, sa décision.
C'est vrai que c'est un pari risqué. Je pense que le ministre veut peut-être gagner du temps et espérer que le problème s'avère moins dramatique qu'on le pense. Mais là, il recule pas. Il est toujours temps pour reculer en même temps. Mais moi, je me mets à sa place. Je le comprends, en fait. C'est un gros mot, reculer. Parce que c'est toute la crédibilité du gouvernement dans ce dossier-là, puis du ministre qui va être entaché. Mais en même temps, s'il y a des bruits de service, puis il y a des gens qui risquent de perdre la vie ou ça se pose. Donc, c'est un dilemme cornélien, comme on disait. J'ai de la sympathie pour lui, là, en fait, parce que c'est quand même pas lui qui est responsable de tout ce qu'on n'a pas fait depuis 30, 40 ans.
Tout à fait. Puis s'il y a un ministre qui veut pour le réseau de la santé, c'est bien lui. Je me rappelais que Christian Dubé levait la main pour être ministre de la Santé. Alors, je ne sais pas s'il y a la même flamme aujourd'hui qui l'habite, mais enfin, avant d'aller à notre auditrice, dernier texto, je travaille dans le milieu de la santé en oncologie. Les patients sont inquiets. Tous se doivent d'être vaccinés. Le gouvernement ne doit pas reculer. Nous sommes en pandémie. Il faut arrêter de penser à sa petite personne. C'est une question de solidarité collective. On va aller joindre Nicole. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Vous êtes infirmière, je crois?
Oui, je suis infirmière. Je vais vous dire qu'il ne faut pas reculer parce que on en a des obligations de vaccination dans le réseau. C'est pas nouveau, là. Il faut être vacciné pour la varicelle, pour l'hépatite B, pour la rougeole. Ça se fait déjà. Alors, je vois pas c'est quoi le hic de pas vouloir se faire vacciner. Alors, faut pas reculer. Puis, ça serait pas juste pour les patients. Ça serait pas juste pour notre éthique professionnelle. Ça serait pas juste. Donc, faut pas reculer.
Nicole, je me permets de poser une question à cette... prenons pour acquis là, que c'est 20 000 personnes qui, le 15 octobre prochain, le gouvernement ne recule pas, continue et se retrouve absente du réseau. Est-ce que vous craignez pour les ruptures de services? Quelle est votre vision des choses?
Comme tout le monde dit, il y en a des ruptures de service, mais M. Dubé a bien dit hier que sur les 20 000, il y en a 10 000 qui sont aux soins. Il ne faut pas oublier ça. Il y en a 10 000 qui sont dans les services administratifs. Donc, 10 000 dans tout le Québec. Hein? Faut pas se leurrer. Donc, moi, je pense que j'étais gestionnaire dans le réseau. Je pense que c'est possible de réorganiser certains services. Okay. C'est possible.
OK.
Puis je lui souhaite bonne chance, puis je lui lève mon chapeau, en tout cas.
Bien, merci de le souligner, effectivement.
C'est un des ministres de la Santé qui tient debout, là.
Oui, vous avez raison, Nicole. Puis je tiens aussi à le dire, j'ai déjà affirmé en onde que, premièrement, c'est un super communicateur. Et deuxièmement, là, ça prend beaucoup de courage pour être ministre de la Santé aujourd'hui. Avant d'aller à Gaston, Julie nous écrit sur le texto, je suis infirmière clinicienne vaccinée. Ce que j'entends sur le plancher, c'est que le gouvernement bluff, alors il ne doit pas, il faut pas, alors je ne fais pas me vacciner, c'est ça. Les gens pensent, c'est ça. Elle dit que les gens pensent que le gouvernement bluff, c'est pour ça que les gens ne se font pas vacciner. Alors oui, je crois qu'il doit maintenir sa décision, nous écrit-elle. On va aller joindre Gaston. Bonjour à vous, Gaston.
Bonjour, mademoiselle Normandeau. Félicitations pour votre travail.
Merci beaucoup. Alors, votre opinion sur est-ce que le gouvernement devrait reculer ou encore est-ce que vous croyez ministre de la Santé par rapport aux bris de service?
Oui, je le crois, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des bris de service. Reculer, non, mademoiselle, faut pas qu'elle recule. On a un gouvernement qui va bien, puis c'est pas marché à l'envers. Mon problème à moi, c'est que le problème de ça, c'est d'engager les hôpitaux parce que c'est des non-vaccinés qui rentrent à l'hôpital. J'aimerais que M. Legault, si, avec son pouvoir, qu'il mette la même chose qu'il a faite pour ses employés dans les hôpitaux. Tu t'en vas chez vous si tu vas pas te faire vacciner. La personne qui est non vaccinée dans le public, je parle en public en général, tout le monde, si tu veux rentrer dans un établissement de santé, il faudra que tu sois vacciné. Ça ne veut pas dire qu'on leur refuse quand ils arrivent à l'hôpital, là, mais qu'ils s'attendent que mais qu'ils mettent les pieds dans un hôpital, sa première chose, ça va être de lève ta manche, on vaccine ici.
Okay.
Que les gens soient vaccinés pour rentrer dans l'hôpital. Ça serait plus, si je mets à la place des gens dans les hôpitaux, dans le moment qui soignent, qui travaillent habillés comme des scaphandriers, j'aimerais mieux soigner un patient qui, quand il rentre, que je sais qu'il est vacciné, qu'un qui s'en vient là, puis qui c'est lui qui cause tous les problèmes parce qu'il n'est pas vacciné, puis que des fois qu'on a de la misère avec.
Okay.
Ce serait que tout le monde soit vacciné et attends-toi que quand tu vas à l'hôpital, si tu ne l'es pas, ben c'est ton choix. Là c'est okay. Toi qui décides.
Merci beaucoup, Gaston. Vous me faites penser... Il y a déjà des conséquences liées au fait que certains de nos employés ne sont pas vaccinés. Il y a une auditrice qui m'écrivait cette semaine pour me dire qu'il y a des éclosions dans certains CHSLD. Christian Dufour, nos auditeurs sont largement favorables à la vaccination dans le réseau de la santé. Est-ce que je comprends? Il y en a plusieurs aussi qui nous disent aujourd'hui, qui nous écrivent, le gouvernement ne doit pas reculer. Parce que ça enverra un message que la minorité des non-vaccinés a gagné. Fait qu'il y a, évidemment, il peut y avoir toutes sortes de façons d'interpréter le fait que le gouvernement recule, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça dangereux de voir ça comme une opposition entre les gens vaccinés et les gens non-vaccinés. Il y a tout le danger des boucs émissaires. Puis rappelons qu'au Québec, là, une grande majorité de la population est vaccinée. Là.
Oui, 84% de doses.
84%.
Hein, c'est ça?
Donc, il faut quand même être réaliste. On ne pourra pas atteindre 100%, 95%. Les gens qui ne sont pas vaccinés, moi, personnellement, je trouve que c'est con là, de ne pas se faire vacciner. C'est évident. C'est à notre disposition. Mais ils ont quand même le droit de ne pas être vaccinés. Il faut quand même le rappeler. Puis c'est pas eux qui sont responsables de toute la crise. C'est aussi notre système de santé qui est dysfonctionnel. Il ne faut jamais oublier ça. Et la chose que je me dis, c'est que M. Dubé, il a une crédibilité. C'est un type solide. J'ose espérer qu'il a fait sa déclaration à l'effet qu'il n'était pas question qu'il y ait de bruit de service. C'est pas juste par bravade que certaines informations qui lui laissent penser qu'on va peut-être être capable de passer à travers la crise sans revenir sur la directive. On peut espérer ça, si vous voulez, que c'est pas juste de la bravade. Il n'y a pas de solution miracle. Mais moi, par exemple, j'insiste là-dessus. Moi, pour aller dans la campagne fédérale, moi, j'ai trouvé odieux la façon dont M. Trudeau là, a essayé de cibler les gens pour vacciner en faisant des ennemis. Ça, c'est malsain. Là. On n'a pas besoin de se chicaner les uns des autres. Puis, d'ailleurs, François Legault n'est pas embarqué là-dedans. Il dit qu'il faut convaincre le plus de monde possible de faire se vacciner. Il faut leur en parler. Mais ce ne sont pas des démons, là, les gens qui ne sont pas vaccinés. Mm-hmm. Puis, il y a une agressivité énorme à l'égard des gens qui ne sont pas vaccinés.
Vrai.
Je sais, dans mon entourage, il y a des gens beaucoup qui disent s'ils sont malades, il ne faudrait pas les traiter. Il y a des conséquences, c'est ça. Ça va très, très, très loin. Mais c'est un peu simpliste parce que 84% des gens, vous et moi, Nathalie, on nous disait avant, le vaccin, c'est la solution. On réalise que c'était plus compliqué que ça. Hein. Il y a une dose, deux doses. On est rendu à 84% de vaccinés, mais on a l'impression qu'on n'a pas avancé.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Mais rappelons aussi, juste pour finir, il faut le rappeler, là, il n'y a pas à ce point-là d'hospitalisation. Il y en a, ça augmente, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début de la crise. Puis il n'y a pratiquement pas de mort. Là. C'est des différences importantes.
La situation a évolué, on pourrait dire, positivement quand même. La vaccination a des effets là, positifs, on le voit bien.
C'est ça, puis notre population est massive. 84% dans une démocratie libérale, c'est massif.
Exactement.
Vous avez fait de la politique, vous savez à quel point. Oui. Dès qu'on atteint des pourcentages, là, mettons, d'approbation, de 60%, c'est énorme. Donc, il faut voir le chemin qu'on a. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que je comprends que c'est dangereux, c'est épeurant, mais il ne faut pas sombrer dans l'alarmisme, puis aussi la recherche de boucs émissaires. C'est épeurant, ça. Mm-hmm. Avant, c'était les touristes totales, les gens qui allaient dans le sud, c'était des monstres, c'était ceux qui étaient responsables, là, c'est les gens pas vaccinés. C'est contre pas de se faire vacciner, mais ils ont le droit.
OK. C'est bien dit, Christian Dufour. Excellente fin de semaine. On sera au plaisir de se reparler, Christian. Merci beaucoup.
Merci, Nathalie.
Bye-bye. 10h32, courte pause. Avant d'aller à la pause, petit message d'une infirmière clinicienne à la retraite. Non, le gouvernement ne doit pas reculer. Et quelques-uns d'entre vous pensaient que le gouvernement bluffe et puis qu'il est rendu au 15 octobre. Et il va peut-être déployer une autre solution, c'est-à-dire celle des tests rapides. 4 minutes avant 10h40, nous poursuivons cette discussion sur la décision du gouvernement d'obliger la vaccination pour les employés du réseau de la santé. Bon, le 15 octobre prochain, à mettre à votre calendrier parce que c'est une date importante. Le gouvernement va passer de la parole aux actes et suspendre tous ses employés qui ne seront pas vaccinés. On estime que ça pourrait représenter 20 000 personnes. Avant d'aller joindre Simon au téléphone et d'aller de discuter avec notre prochain invité, je vais vous lire quelques réactions sur notre texto-courriel, reculer sur la vaccination obligatoire pour combler une pénurie de main-d'œuvre serait comme de ne plus exiger un diplôme de médecine pour trouver des médecins de famille. Je trouve que c'est le gros bon sens qui s'exprime. Stéphane est un patient en hémodialyse et nous écrit via le courriel. Il est immunodéprimé et vulnérable. Il est en contact avec le personnel 3 fois par semaine pour plus de 5 heures à chaque fois. Alors, il en est à son 3e vaccin. Oui, il faut que le personnel se fasse vacciner. Janine nous écrit, je pense pas qu'en obligeant, ça réglerait le problème, surtout que ce vaccin ne nous épargne pas d'attraper la COVID. Alors, ça, c'est un point de vue, Janine. et qui est partagé, mais pas par une majorité. C'est ce que je décode et conclue en vous lisant et en vous écoutant. Mondor nous écrit, mon fils est inhalothérapeute. Il me racontait cette semaine que certains patients se disaient vaccinés afin d'être soignés, alors que c'était faux, car ils craignaient d'être mal soignés. Imaginez quand tu dois mentir sur ta vaccination. Et Chantal, en terminant sur le courriel, elle est infirmière depuis 27 ans. Elle dit, je suis habituée à toutes ces coupures et restrictions. C'est normal, ce régime de travailler à personnel réduit. Alors non, on ne recule pas, dit-elle au ministre de la Santé. On va aller joindre Simon. Bonjour, Simon.
Bonjour, Mme Normando. Félicitations pour votre émission.
Merci beaucoup, Simon. On vous écoute. Votre conjointe est infirmière, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ma conjointe est infirmière dans l'une des urgences les plus occupées au Québec. Okay. Puis, dans le fond, concernant la question du jour, je pense que le gouvernement ne devrait pas reculer. Je pense que c'est important que les infirmières soient vaccinées au maximum. Puis, si le gouvernement reculerait, à mon sens, ce serait un non-sens, en fait, en lien avec tous les efforts qui ont été faits depuis des mois au Québec, puis ailleurs dans le monde, que les gens soient vaccinés. Alors, tu sais, je pourrais pas concevoir que le gouvernement reculerait. Ça, c'est dans un premier temps. Puis, dans l'autre temps, si les gens, les infirmières ou les infirmiers qui sont pas d'accord avec cette situation-là, qui font pas les efforts nécessaires, perdent leur emploi, ce que je crois, c'est que, ben, just too bad. Ces gens-là avaient la possibilité de le faire, devraient avoir la conscience de se faire vacciner pour le bien des autres. Puis, concernant la pénurie de la main-d'œuvre, je pense qu'il y a des solutions qui ne sont pas explorées actuellement par le gouvernement, par la FIC, puis pour quelles raisons, je ne le comprends pas. Mais on fait juste essayer de mettre un pansement sur des situations problématiques, puis ça fonctionne tout simplement pas. J'ai de la misère à concevoir qu'il n'y a pas personne qui allume. Par exemple, l'urgence où est-ce que ma conjointe travaille, c'est jour après jour en manque de main-d'œuvre. La nuit dernière, ou là, deux nuits, il manquait 10 infirmières, infirmiers. Il y avait deux personnes seulement qui pouvaient continuer à travailler. Fait qu'on était obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire pour rester là. Le personnel administratif a dû travailler sur le plancher pour réussir à combler. On voulait pas fermer l'urgence à cet endroit-là. Puis c'est comprenable dans une certaine mesure, mais à un moment donné, quand ça ne fonctionne plus, ouais, le système est complètement brisé.
Tout à fait.
Je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement, où il n'y aurait pas une mise à niveau horaires des infirmières. La problématique, je pense qu'elle est là.
Il faut dire que le gouvernement a plusieurs défis, Simon, à relever. Vraiment, c'est un défi après l'autre. Je vais vous demander de conclure, Simon.
Ben, dans le fond, pour conclure, j'aimerais ça poser la question. Pourquoi est-ce que, au niveau du manque de personnel, on va pas chercher des horaires semblables à ceux des policiers ou d'autres corps de métier? Où est-ce que c'est des horaires de rotation? Où est-ce qu'il y a c'est des métiers d'urgence. C'est des métiers où est-ce qu'il doit y avoir un service 24/7 constant. Donc, il y a des horaires qui fonctionnent très, très bien avec des horaires qui sont établis. Puis, il y a des femmes qui travaillent dans le réseau des urgences, comme les policiers. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de grande problématique au niveau des horaires. Puis, ça fonctionne très bien.
Simon, savez-vous
quoi? Alors, à ce moment-là, les infirmières ici...
Je vais poser votre question. Ici, oui, en conclusion, vraiment.
les infirmières ici, ils ont des choix d'horaires. Puis, s'ils travaillent à temps plein, ils ont une journée de congé par semaine, puis deux jours de congé aux deux semaines. Ça, c'est leur fin de semaine obligatoire de congé. Ça n'a aucun sens, ils sont à temps plein. Puis ces infirmières-là, comme la mienne, elle a 21 ans d'ancienneté, mais puisqu'elle n'a pas son bac, elle passe en arrière de toutes les autres. Leur système n'est pas reconnu.
Okay.
Si on déménage à cause de mon travail, elle doit recommencer son ancienneté dans son centre hospitalier. C'est toutes des petites choses qui viennent miner l'atmosphère des infirmières, puis ça fait qu'ils s'en vont tout simplement pour avoir de meilleures conditions.
Merci beaucoup, Simon. Savez-vous quoi, Simon? Je vais poser la question à notre prochain invité qui poursuit avec nous la discussion sur ce sujet. Il s'appelle David Levine. Vous le connaissez peut-être. Il est ancien ministre de la Santé, ancien président et directeur général de l'Agence de la Santé et des services sociaux de Montréal. Bonjour, M. Levine.
Bonjour ce matin.
Ça me fait plaisir de vous parler, M. Levine. On a eu le réflexe de vous appeler ancien ministre de la Santé. Peut-être une réaction à la proposition de Simon, dont la conjointe est infirmière dans une urgence. Les horaires par rotation, un peu comme on le fait avec les policiers pour assurer une couverture 24 heures sur 24. Est-ce que c'est possible de sortir de la boîte pour imaginer un horaire de travail qui fait du sens? Parce que là, écoute, c'est comme si on reproduisait les mêmes solutions année après année, semaine après semaine. À un moment donné, ça ne fonctionne pas.
Je pense que c'est une solution qui peut aller très bien. Il y a plusieurs solutions qu'on peut envisager et qu'on essaie depuis des années. Le problème de la pénurie de la main-d'œuvre date 20-25 ans. On calculait, on ramassait les statistiques dans le réseau depuis longtemps et on essaie de planifier les sorties à l'école pour que ça peut aller avec le nombre d'infirmières requis. On ne réussit pas. Alors, il y a des mesures. Une, cette rotation régulière, plus grande flexibilité aussi pour attirer le main-d'œuvre. Il y a une question actuelle de bachelière pour les infirmières comme exigence avec peut-être d'autres corps de travail qui couvrent certaines tâches que les infirmières font maintenant et de valoriser cette profession. Parce que c'est un métier, c'est une profession et ça doit être valorisé comme c'était ailleurs. J'étais DG de l'hôpital d'Ottawa et en Ontario, tous les infirmières sont bachelières. Tu peux pas avoir le poste d'une infirmière si vous n'avez pas un bac. Alors, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Le syndicat va être d'accord avec ça et fait des arrangements parce que le problème, c'est une pénurie. C'est pas un problème de le vaccin d'aujourd'hui qu'on va parler bientôt, là, oui. Et les exigences de ministres, mais c'était vraiment un problème de pénurie d'infirmières liées aux ententes avec eux.
OK. Monsieur Levine, expliquez-nous, vous avez été grand patron de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Il y a Joanne qui nous écrit sur le texto pour nous parler, elle également, de la situation en Ontario. Son beau-frère y vit. Elle dit, il manque pas d'infirmières là-bas. Personne n'attend pour se faire soigner aux urgences des hôpitaux. Cette semaine, Jaron, auditeur, nous écrivait, il a traversé la frontière pour faire soigner sa fille qui avait une jambe cassée à Hawkesbury. Il n'y a presque pas d'attente. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Comment dire? Pourquoi ça fonctionne dans les hôpitaux anglophones? Au Québec, c'est le cas, hein? C'est le cas. Et en Ontario, mais pourquoi ça fonctionne pas dans certains hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux établissements francophones? Quelle est la différence? Pourquoi on peut pas reproduire ce modèle, tous ces modèles qui fonctionnent au Québec ou dans plusieurs établissements du Québec?
Quand l'urgence est donnée la priorité dans l'hôpital et l'administration met le focus l'urgence en disant une patient arrive et 4 heures plus tard, il n'y a plus à l'urgence. On fait le nécessaire. Ça veut dire on appelle le cardiologue et le cardiologue, on l'appelle à 10 heures le matin, il faut qu'il vienne à 10 heures et quart, pas qu'il vienne à 4 heures de l'après-midi. Évidemment, on ne parle pas de le chirurgien cardiaque en salle d'op, mais le cardiologue, il doit avoir dans le département les gens toujours disponibles à donner priorité à l'urgence. Dans le milieu anglophone que j'avais à Ottawa, c'était le cas. Le monde arrive, vous êtes là un nombre très limité d'heures. Vous savez, dans nos urgences, les gens restent 17, 18, 15, 20 heures.
Ça ne fait pas de sens, M. Levine, voyons.
Et c'est parce qu'on n'a pas organisé l'hôpital pour recevoir et déplacer des personnes à l'intérieur de l'hôpital. Très lié de l'organisation. L'hôpital juif a mis un focus, a mis un gestionnaire à l'urgence qui a beaucoup d'influence et puissance dans l'hôpital et est capable de dire aux autres docteurs quoi faire. Dans la grande majorité des hôpitaux francophones, il n'y a aucun médecin à l'urgence qui va être capable de dire aux autres docteurs de l'hôpital quoi faire. Alors, ça dépend le statut, l'influence qu'on donne à l'urgence dans l'organisation. Et parce que malheureusement, le Québec était lent dans le développement de la première ligne, notre tendance d'utilisation de nos urgences est dans les mœurs. On le fait presque automatiquement parce qu'on sait qu'il est toujours là. Fine, il est là. Maintenant, organisez-les pour que ça peut être le plus efficace possible et continuez à développer la première ligne pour qu'éventuellement la population ait confiance comme il faut dans la première ligne.
C'est très intéressant, Dr. Levine. On va aller à la pause, mais avant d'y aller, Marcel, au féminin de Saguenay, nous écrit sur le texto « Les syndicats sont toujours très forts et ils ferment souvent la porte à bien des solutions. » Ça, c'est un reproche qu'on entend de plus en plus, ou une critique, enfin bref, une observation. Autre réaction sur le texto, « Le ministère de la Santé ne devrait pas reculer sur la vaccination obligatoire. Selon des experts mondiaux, nous ne sommes pas à la dernière pandémie, donc ça devrait être un prérequis pour se prémunir des pandémies à venir qui nous guettent. » Alors voilà, il y a toutes sortes de réactions de votre côté. Mais il faut aller à la pause. Hein? Jacinthe aussi va du même côté que Marcel. Je pense que les syndicats sont toujours rigides et pas négociables pour les horaires de rotation. Il faudrait leur demander leur solution idéale. Ça, vous avez raison, Jacinthe. Il faut que les syndicats, pour trouver des solutions là, aux horaires de travail, entre autres, puis développer le nouvel modèle auquel réfère Dr. Levine, il faut que les syndicats mettent l'épaule à la roue. Oui, Jean-Christophe, nous y allons à cette pause. Et c'est parti presque 3 minutes avant 10h50. On poursuit notre échange sur est-ce que le gouvernement devrait ou non reculer sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Avant de conclure avec notre invité, M. Levine et non Levine, puis je vous ai appelé docteur David. Là, je vous ai...
Pas médecin, non.
mais vous avez presque 40 ans d'expérience dans le réseau, c'est intéressant. Si vous permettez, M. Levine, je vais aller joindre Frédéric au téléphone. Bonjour Frédéric.
Bonjour, Mme Normandeau, ça va bien?
Oui, ça va bien, Frédéric. Je vous écoute. Vous avez une opinion, je pense, contraire à la majorité de nos auditeurs qui nous disent non, le gouvernement ne doit pas reculer sur la vaccination obligatoire dans le réseau.
Ben oui, moi, je pense qu'il doit reculer dans un certain sens parce que j'entends vos intervenants et vous-même, là, on parle beaucoup d'infirmières et infirmiers, mais il n'y a pas seulement que les infirmières et les infirmiers dans le réseau de la santé. Il y a plus de 400 types d'emplois dans le réseau de la santé. Donc, les secrétaires médicales, je vous donne un exemple des secrétaires médicales qui font de la transcription, qui travaillent à la maison. Hein, parce que là, le premier ministre, il a dit que ce serait tout le monde, le mur à mur, qui serait vacciné. Les gens là qui sont 15 minutes auprès des patients et plus, comme les infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, on peut comprendre qu'eux doivent être vaccinés. Mais la secrétaire médicale qui travaille à la maison, le personnel qui s'occupe de la chaufferie, il y en a un dans l'établissement. Si lui, on le retourne à la maison, c'est qui va se venir s'occuper des chauffages? On va être obligé d'appeler un sous-traitant. Est-ce que le sous-traitant qui sera payé 8 fois plus cher, est-ce que lui, on peut s'assurer qu'il va être vacciné ou pas? Il va devenir d'une entreprise privée. Donc, oui, je pense que la vaccination doit se faire auprès des gens qui passent 15 minutes et plus auprès des patients, même si je crois que c'est plus des mesures incitatives que coercitives qu'on doit faire.
Mm-hmm. OK. Mais c'est intéressant, vous apportez une nuance là, de la réalité vécue du terrain. Je me permets, Frédéric, une question avant de vous laisser. Est-ce que, parce que les auditeurs nous écrivent, les gens qui ne se font pas vacciner dans le réseau, c'est souvent des préposés aux bénéficiaires, des gens qui sont à la buanderie ou encore des gens qui sont à la cuisine. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ben, je pense pas que ce soit plus que d'autres. Non, okay. Je ne crois pas à ça.
Okay.
Je pense que c'est mélangé là, dans tous les types d'emplois.
Okay.
Ça leur appartient. Il y en a que c'est pour des raisons de santé également qui refusent de se faire vacciner.
OK, parfait. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme éclairage. Ça nous démontre que, dans le fond, la situation n'est peut-être pas si simple que celle-là. En conclusion, M. Levine, puis on va poursuivre avec quelques auditeurs après avoir conclu avec vous. Mais premièrement, vous, quelle est votre position par rapport à... Est-ce que vous croyez effectivement que le 15 octobre, le gouvernement va être confronté à des problèmes importants en termes de rupture de service?
Je suis pas sûr de ça. Je pense que les infirmières, surtout cette catégorie, prennent une responsabilité très préoccupée à leurs patients. Et je sais pas l'ampleur du problème qui peut arriver. Moi, j'aurais eu tendance de donner une certaine flexibilité, pas un recul pour le ministre ni le gouvernement, mais de dire il faut absolument avoir le vaccin. Pour ceux qui n'ont pas, pour des raisons particulières, pour des raisons de santé, pour des raisons, il peut avoir un mécanisme de test chaque jour. Ou je sais pas si pour la santé publique, pour être sécuritaire, ça prend des tests tous les 3 jours. Vous savez, aux États-Unis, dans les usines, quand le président a dit obligatoire dans toutes les usines américaines oui. d'avoir le vaccin, sinon, test tous les jours. Et alors, l'individu a besoin d'être confronté à être testé tous les jours, attendre les résultats tous les jours, ou simplement se faire vacciner. Est-ce que c'était une approche qui donnait une certaine flexibilité et donne pas l'impression que le ministre impose quelque chose? Là, ça devient de la volonté des personnes. Est-ce que je prends les tests régulièrement tous les jours ou est-ce que simplement je vais me faire vacciner et avoir mon passeport? Ça, c'était une option, mais il faut absolument assurer que les gens sont vaccinés et sûrs. Et le test peut démontrer que c'est une portion de sécurité.
OK. Merci beaucoup, David Levine, pour ces ces explications. C'est très instructif. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On le rappelle, vous êtes un ancien ministre de la Santé. À bientôt. Bonne fin de semaine.
Ça marche. Merci.
Bye-bye. Réaction aussi de votre côté. Texto, les mesures doivent être incitatives plutôt que coercives. Ça revient. Mais majoritairement, là, ce que je comprends, c'est que vous souhaitez que le gouvernement ne recule pas sur la question de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé après la pause. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir repris votre vie d'avant la pandémie?